D'habitude, quand Edna rentre chez elle, la radio est toujours allumée, mais pas ce soir. Rose essaie d'ouvrir une valise bleue qui est posée sur le sol de la cuisine, mais ses petites mains ne parviennent pas à soulever les deux languettes de la tâche. Dès qu'elle l'aperçoit, Edna comprend qu'Hélène est venue. Elle se rappelle les lettres que Simon Lucien a écrites. « Toi, tu avais fait le nécessaire pour les provisions, et moi, la valise bleue. Je l'ai posée sur le sol de notre chambre. La Méditerranée sur le parquet. Une flaque bleue remplie de romans que je t'ai lus. » Cela faisait longtemps qu'Edna attendait cette visite. Elle pensait qu'elle aurait lieu plus tôt. Déjà 6 mois qu'elle est allée au café donner leur adresse à Hélène L. 6 longs mois. Plus de 180 jours et nuits à appréhender. Repartirait-il avec elle? La reconnaîtrait-il? Cela faisait 6 mois qu'elle se préparait à retrouver la maison vide. Rose semble déçue par le contenu de la valise. Quelques livres, 2 vieilles paires de chaussures datant d'avant-guerre et 3 chemises blanches. Pas de quoi s'amuser. Simon apparaît en haut de l'escalier. « Tu n'écoutes pas la radio ?» lui demande bêtement Edna, ne trouvant rien d'autre à lui dire. « Non, je n'ai pas le cœur. » Il descend l'escalier pour embrasser sa fille. Edna est en train d'observer les chemises blanches. « C'est quoi cette valise ?» demande-t-elle. « Je l'ai trouvée. » « C'est drôle, on dirait que les chemises sont à ta taille. » Lucien prend une des vieilles godasses encore dans la valise et l'enfile. « Oui, et regarde, » dit-il, « cette chaussure me va aussi bien que la pantoufle de verre à Cendrillon, comme dans un conte de fées sans fées. »« Pourquoi dis-tu ça ?»« Il y a des turbots pour le dîner, je vais les vider, » répond-il. Il déteste le poisson. Il déteste le manger, mais aussi le vider, le cuisiner, toucher les écailles, couper la tête. L'odeur du poisson mort lui donne la nausée. Rose imite son père. Elle enfile l'autre chaussure en riant aux éclats. Claude attendait Hélène devant l'abbaye de Notre-Dame-des-Landes. Il était assis sur un banc de pierre, observant une grappe de gosses jouer au foot. Quand elle s'est approchée, le vent a défait ses cheveux et le ruban qui les maintenait s'est envolé vers l'océan. En la regardant s'approcher de lui, il a pensé qu'il n'était jamais tombé amoureux d'elle. Au café, les clients le charriaient depuis des années. « Allez, le ch'ti Claude, avoue que t'en pinces pour ta patronne !» Non, il l'aimait comme on aime une grande dame, une femme qui récure les sols, coud et lit le silence de la mer sans faire de différence. Il n'était tombé amoureux qu'une seule fois, d'une cliente qui avait fréquenté le café chaque jeudi matin pendant 2 ans. Le jeudi matin, c'était jour de marché à Milly. Après avoir fait ses courses, elle venait boire un verre au café du père Louis. Son père buvait toujours un café et elle, une grenadine à l'eau. Claude mettait tout son cœur quand il lui versait sa grenadine et gardait son verre caché dans un tiroir sous le bar. Il le lavait séparément des autres et l'essuyait avec un chiffon doux pour y faire entrer le plus de lumière possible. Quand elle buvait, l'espace de quelques secondes, il ne respirait plus, trop occupé à l'observer avaler le liquide rouge. Il bénissait les jours de marché où il faisait chaud. Il la resservait jusqu'à ce qu'elle étanche sa soif, sans aucun supplément. Elle s'installait sur la terrasse et il lui faisait de l'ombre avec un parasol qui lui était destiné. Elle ne lui souriait pas comme elle souriait aux autres, Claude en était sûr. Elle aussi était amoureuse de lui. Ça se voyait à la manière dont elle le cherchait du regard depuis la place de l'église avant d'arriver au bistrot. Elle apparaissait toujours vers 11 heures, accompagnée de son père. Leurs minutes étaient comptées. Ils arrivaient par l'autobus de 9h45, remplissaient leur panier, buvaient un verre et repartaient par celui de 11h40. Chaque jeudi, Claude vivait 20 minutes de grâce. Et cela valait des années de bonheur conjugal, pensait-il. Surtout en cette période d'après-guerre, où l'on se réveillait en s'étonnant d'être encore vivant. Quand elle repartait, il ne vivait plus que pour le jeudi suivant. Un jeudi matin, elle n'était pas venue. Son père était seul. Claude avait pensé qu'elle était souffrante. Le jeudi suivant non plus. Le troisième jeudi, Claude osa demander au père s'il fallait préparer le verre de grenadine pour la demoiselle. Ce à quoi le père répondit « Non, Marthe est partie travailler à Paris chez un notaire. » Claude faillit s'évanouir. Il la perdait le jour où il apprenait son prénom. Cela le bouleversa doublement. Marthe ne revint jamais au café, et les jeudis de Claude se mirent à ressembler aux autres jours de la semaine. Qu'il fasse beau ou qu'il pleuve n'avait plus aucune importance pour lui. Le verre resta longtemps dans un tiroir. Puis, un jour de grand ménage, il rejoignit les autres verres sur les étagères. Quand il a remarqué qu'Hélène ne portait plus la valise bleue, Claude a compris que c'était bien Lucien qui vivait dans la maison qu'on leur avait indiquée. Il avait insisté pour venir et pour qu'elle sache. Mais en la voyant approcher, sa paire de chaussures neuves à la main, avec un air terriblement malheureux qui déformait les traits de son visage, il avait regretté. Tous deux ont repris l'autobus, et Claude n'a posé aucune question à Hélène. Elle finirait par tout lui raconter quand il rentrerait. Sur le chemin du retour qui a duré plus de 14 heures, Hélène a regardé le ciel à maintes reprises en lui répétant « Je ne comprends pas pourquoi la mouette ne revient pas avec moi. Elle n'a plus rien à faire là-bas. » Le jour de son retour de Bretagne, c'est le regard de Louve qui a le plus attristé Hélène. Comme si la chienne avait compris qu'elle ne verrait jamais son maître. Hélène redoutait le moment où elle se retrouverait face à son lit. Depuis l'arrestation, elle y avait toujours dormi avec l'espoir de Lucien, un espoir qui la tenait au chaud. Désormais, ses nuits seraient froides, même si Louve dormait à ses pieds. Hélène n'a pas eu le cœur de vider la partie gauche de l'armoire où toutes les affaires de Lucien étaient suspendues dans le temps. Pantalons, caleçons, gilets, eau de Cologne. Elle verrait plus tard. Pour l'instant, elle n'ouvrirait plus que la partie de droite, celle de ses robes. Le soir même, Lucien a rangé la valise bleue derrière la commode de leur chambre. Edna lui en a voulu. Leur chambre, plutôt qu'une pièce annexe comme la cave, le grenier ou la remise. Il voulait garder près de lui cette Méditerranée qui avait été le témoin privilégié de l'autre amour. Au milieu de la nuit, Edna l'entendait se déchaîner, comme un animal tapi dans un coin, un animal maléfique et cruel qui finirait par la noyer. Pour se rassurer, elle avalait des comprimés de morphine et se racontait des histoires. Il n'est pas reparti avec elle. Il a décidé de rester avec moi. C'est son choix. Il m'a regardé tendrement avant-hier soir à 21h05, quand il m'a embrassé la semaine dernière avant de partir travailler. Sa bouche a presque touché la mienne. Il m'a souri au dîner, il y a 10 jours. Il m'a demandé si je n'avais pas froid et a posé un châle sur mes épaules avant même que je réponde. Edna a consigné tous les signes de cet amour probable dans son carnet émotionnel. Un dimanche matin, quelques semaines après la visite d'Hélène, Lucien a ouvert la valise bleue sur le lit. Il en a longuement observé le contenu sans le toucher. Edna a les pieds, cachés derrière une porte. Elle se disait que quand il en aurait terminé, elle changerait les draps. Puis il a sorti tous les livres de la valise, l'a refermée et l'a à nouveau rangée derrière la commode. Il a posé les livres par terre, près d'un fauteuil. En a ouvert un premier au hasard, puis un deuxième, et s'est mis à les lire tour à tour et à les relire chaque jour. Il devait y en avoir une vingtaine, dont une dizaine de Georges Simenon. À partir de ce jour-là, à peine était-il rentré du travail qu'il retrouvait son fauteuil et ses livres. Il avait la tête d'un explorateur qui découvre une planète inconnue et qui cherche coûte que coûte les preuves d'une vie antérieure. À partir de ce dimanche-là, Edna a cessé de se raconter des histoires. Lucien revoyait Hélène dans l'embrasure de la porte. Il sentait son parfum de rose quand elle était entrée dans la maison. Petite femme gracieuse avec sa peau blanche, ses grands yeux et son ruban dans les cheveux. Il la revoyait, les lèvres tremblantes, s'accrochant à sa valise bleue, comme au bastingage d'un bateau pour ne pas être emporté. Il ne revoyait qu'elle. Cela faisait 6 ans qu'il vivait aux côtés d'Edna, dont il ne savait rien, dont l'abandon de soi semblait proscrit. Tout était retenu chez Edna, jusqu'à ses cheveux qu'elle tirait en un chignon impeccable. Alors qu'en quelques minutes, il lui avait semblé tout savoir de la mouette. C'est ainsi qu'il la nommait en pensée, puisqu'il ne connaissait pas son nom. Tout. Il avait tout su d'elle dès qu'elle était entrée. Que le mot « délicatesse » était celui qu'elle préférait. Qu'elle chantait en lavant la vaisselle parce qu'elle avait horreur de cela. Qu'elle n'essuyait jamais les verres. Qu'elle les faisait sécher sur le rebord de l'évier. Qu'elle aimait faire l'amour au réveil. Qu'elle était frileuse. Qu'elle mangeait des pommes rouges. Qu'elle portait des bas de laine. Qu'elle aimait le vent. Le soleil, mais à l'ombre. Les fêtes foraines. Pisser dans l'herbe. Rouler à bicyclette dans les flaques d'eau. Jouer aux osselets. Natter ses cheveux. La suze, la couleur bleue, la pleine lune, nager, coudre, rire, marcher, rêver, le silence, les parquets qui craquent, l'eau chaude, la poudre de riz, les draps blancs, les robes noires, le parfum des roses, les bouquets de lavande dans les armoires, les grains de beauté, toucher les choses, qu'elle avait la gorge fragile, qu'au moindre coup de froid elle s'enrhumait, qu'elle avait de violents maux de tête et des règles douloureuses. Tout. Pourtant, il ne se rappelait rien. Pas même d'où elle venait, ni même où il vivait. Car il avait vécu avec cette femme-là, et il en était certain, Edna le savait. Pourquoi, il n'en avait aucune idée. Mais elle savait. Elle connaissait l'existence de la mouette. Son regard sans cesse dérobé la trahissait. La mouette du ciel était toujours là, comme une vieille amie. Une ombre en plus les jours de soleil. Elle se posait souvent sur le toit de la maison et le suivait quand il partait travailler à la conserverie. Il n'aimait pas son travail. Il puait trop le poisson. Il n'aimait pas sa vie. Il n'aimait pas sa sale gueule barrée par une cicatrice qu'il rasait tous les matins dans le miroir de la salle de bain. Seule Rose lui donnait le moyen de tenir. Rose et les cigarettes dont il adorait avaler la fumée, le soir, en regardant un point fixe dans le ciel. Un mardi après-midi, où il avait quitté plus tôt le travail, sachant qu'Edna ne rentrerait pas avant le soir, il a ressorti la valise. Il a essayé les chemises blanches les unes après les autres en se regardant dans le miroir de la bonne tière. Dans le reflet de la glace, il n'a pas reconnu l'homme à qui elles avaient appartenu. Mais il l'a envié. Hélène a demandé à Claude d'écrire « à vendre » en noir sur un écriteau blanc. Avec du fil, des ciseaux et du ruban, elle a fabriqué une attache. Elle a accroché l'écriteau sur la porte du café. Claude lui a demandé si elle était sûre. Que deviendrait-elle après? Elle lui a répondu qu'elle repartirait à Clermain avec Louve, chez ses parents. Ils n'étaient plus tailleurs et avaient vendu leur boutique, mais elle trouverait toujours des travaux de couture. Claude s'en était encore plus voulu de l'avoir emmenée à la Bervrac. Il avait fini par croire au retour de Lucien encore plus fort qu'elle. Depuis des années, lui aussi pensait qu'un jour il rentrerait dans le bar et s'installerait derrière le comptoir comme si de rien n'était. Il avait fini par croire à la croyance d'Hélène comme si c'était la sienne. Ce voyage avait anéanti tout espoir de retour. À Milly, la nouvelle de la vente du café du père Louis fit l'effet d'une bombe. La plupart des hommes s'étaient rassemblés devant la porte pour s'assurer que ce n'était pas une fausse rumeur. Hélène L., leur Hélène L., vendait leur café. Ils étaient tous là, les vieux, les jeunes, les retraités, les alcoolos, les actifs, les paysans, les courageux. Les fainéants, les vétérans, les artisans, le curé, les ouvriers, les contremaîtres. Ce n'était pas possible. Comment pouvait-elle partir, les abandonner comme de vieilles chaussettes? Qu'allait-il devenir sans elle? Qui raccommoderait leurs pantalons et, les jours de la semaine, qui leur servirait à boire et à manger? Qui les écouterait rabâcher? Qui leur vendrait leur tabac? Qui s'occuperait de Baudelaire? Qui leur donnerait le tiercé dans l'ordre? Qui leur sourirait comme elle souriait? Ils avaient tous le sentiment de perdre le suc de leur matin, de leur midi, de leur fin du jour. car rien n'était plus salutaire que ce jardin de bouteilles au milieu des tracas quotidiens, des soucis d'argent, des gosses, des femmes, du salaire qu'il fallait ramener, que de pousser la porte du café et de retrouver un vieux pote à qui raconter deux ou trois conneries. Le café du père Louis était le carrefour où ils se croisaient, se serraient la main, échangeaient sur l'usine, les livraisons, les bêtes, le patronat, les récoltes, les dernières nouvelles. L'hiver, il y faisait toujours chaud. Hélène elle-même veillait aux bûches. Et puis, ça sentait bon là-dedans. Ou le fumet d'un plat unique servi à midi, ou une odeur de rose. Ce n'est pas parce qu'on se saoule un peu que l'on n'aime pas le parfum des roses. La radio rythmait les secondes, les actualités, les chansons d'amour, une tasse ou un verre à tremper ses lèvres, et la vie suivait son cours, plus légère, aussi légère qu'Hélène, elle, la femme idéalisée, qu'on aurait pu soulever du bout du doigt tant elle était menue. Très vite, une terrible crainte traversa le village. Qui serait le futur repreneur? Jamais il n'aurait les yeux clairs. Jamais il ne les raccompagnerait chez eux les soirs de cuite. Jamais il ne leur raccommoderait quoi que ce soit. Jamais il ne veillerait au feu. Jamais. Qu'on en sorte vainqueur ou vaincu, on perd toutes les guerres. Mais il ne perdrait pas Hélène. Et si ce repreneur transformait leur café en garage ou en mercerie? Très vite, les consommateurs firent courir le bruit dans toute la région que quiconque mettrait les pieds au café du père Louis à Milly pour faire une offre d'achat à sa propriétaire le regretterait amèrement. Et l'on ne retrouverait sans doute jamais son corps. Personne ne s'y risqua. Et Hélène ne sut jamais pourquoi personne ne racheta son bistrot. Comme si son écriteau était invisible. Écriteau qu'elle avait dû changer trois fois à cause des intempéries et des malveillants qui l'avaient arraché. Début 53, Hélène finit par demander à Claude d'écrire « à vendre » sur la vitre de la porte. Mais cela ne changea rien. Elle ne reçut aucune proposition. Dans un premier temps, Claude avait écrit « à vendredi », sachant qu'Hélène ne s'en apercevrait jamais. Puis, pris de remords, il avait passé de l'essence de térébenthine sur le « dit ».
Justine, il est minuit. Il faut rentrer.
La voix de Pépé me ramène au présent. Je referme le cahier bleu juste après avoir embrassé Hélène. Je ne sais pas si elle m'entend lire sa vie. Dans le couloir, Roman, Clotilde et Rose sont là. Je leur présente Pépé. Roman me dit « Janet Gaynor a eu un Oscar pour trois films. L'Heure suprême, L'Ange de la rue et L'Aurore. À l'époque, on pouvait récompenser la même actrice pour plusieurs rôles. » J'aurais préféré qu'ils me disent « Justine, je vous aime, et Clotilde n'a jamais existé. C'était une mauvaise blague, et ce n'est pas Hélène qui est dans cette chambre, c'est un sosie. Hélène est partie faire un trekking au Népal. » Pour l'Oscar de Janet Gaynor, je le savais déjà. Je sais même que les animateurs de Walt Disney se sont inspirés de son visage pour créer le personnage de Blanche-Neige. Je lui dis juste « Au revoir ». Il est 1h du matin, et comme si le ciel rendait hommage à Janet, il neige un peu. Les essuie-glaces grincent. Pépé conduit à 2 à l'heure.
« C'est toi qui as écrit ce que tu lisais à Madame L ?»«
Oui. »«
C'est bien. »«
Merci. » J'ai envie de dire à Pépé que je l'ai écrit pour le petit-fils de Madame L, dont je suis raide dingue. J'ai envie de lui dire que je suis allée en Suède et que Magnus m'a tout raconté. J'ai envie de lui dire que sur le toit des hortensias, il y a une mouette. J'ai envie de lui dire que je couche avec je ne me rappelle plus comment. J'ai envie de lui dire qu'un jour, je suis rentrée trop tôt à la maison et que j'ai trouvé Mémé habillée en plombier. J'ai envie de lui dire que Patrick et Jo s'aiment d'amour. Mais au lieu de ça, je fais semblant de dormir. Derrière mes paupières closes, les visages de Clotilde et d'Hélène se confondent. De temps en temps, j'ouvre les yeux pour observer le profil de Pépé qui s'éclaire quand on traverse un village ou qu'on passe près d'un réverbère. Je ne pense qu'à Roman, qui est marié, et à Hélène, qui s'approche de la fin. Je pense au désert qui m'attend, au tout prochain virage. Et lui, à quoi pense-t-il, mon Pépé? Ce Pépé qui ne dit jamais rien. Qu'elle est revenue? Annette est revenue pour se marier avec Alain Neige le samedi 13 février 1985, à 15h à l'église de Milly. Il y avait des fleurs blanches dans ses cheveux blonds. Armand n'a vu que cela, une couronne de fleurs blanches. Il n'a pas vu la beauté de Sandrine accrochée au bras de Christian. Il n'a pas vu Magnus emmener Annette, tremblante, vers l'hôtel. Il n'a pas entendu les consentements mutuels. Il n'a pas vu Eugénie essuyer une larme. Il n'a pas entendu « Imagine » de John Lennon après l'échange des alliances. Il a passé la journée dans un champ de fleurs blanches accrochées à des cheveux. Il ne saurait dire si, en quittant l'église, ils ont rejoint la maison à pied ou en voiture, s'il faisait froid ou très froid pour un mois de février, s'ils ont fait chanter les voitures en klaxonnant. Les mariés portaient la même tenue. Armand détestait que Eugénie les habille de la même façon quand ils étaient petits. Mais ce 13 février 1985, il n'a pas prêté attention à ce détail. Ils étaient 15 autour de la table de la salle à manger. Armand, Eugénie, Christian, Sandrine, sa mère, Alain, Annette, ses parents Magnus et Ada, le frère d'Annette et quelques amis des mariés. Eugénie avait demandé à Armand de pousser les meubles. Pour l'occasion, elle avait mis une nappe blanche. Armand disait oui, Armand disait non, Armand souriait, Armand servait des verres de champagne, ou peut-être était-ce autre chose. Ils ont mangé le fameux couscous de la mère. Eugénie avait commencé à le préparer la veille. Elle avait passé une partie de la nuit à égrener la semoule, comme le lui avait appris son amie Fatia. Magnus a fait quelques photos avec l'instamatic de Christian. Puis ils ont dansé. D'abord les vieux, qui n'étaient pas tellement vieux. Ensuite les jeunes, qui n'étaient plus tout à fait jeunes. Christian et Alain avaient enregistré des cassettes pour leur mariage. Des cassettes que Jules a toujours dans un des tiroirs de son bureau. Quand les vieux se sont rassis, Alain a passé l'album de Prince, Sign of the Times. Ensuite, ils ont mangé une pièce montée qu'Annette et Sandrine ont découpée ensemble. Sur le sommet, 4 figurines en plastique représentant les jeunes mariés s'enlaçaient. Annette a décroché un des couples en plastique et a léché la crème et le caramel sous leurs pieds. En fin d'après-midi, les mariés, un peu éméchés, sont montés faire une sieste sans leurs femmes qui sont restées en bas avec les invités. Eugénie est retournée en cuisine pour préparer une grande soupe à l'oignon. Ada et Magnus l'ont aidée. Pendant ce temps, Annette a mis Angie des Rolling Stones, puis elle a invité Armand à danser. Pendant Angie, contre son corps, il a pensé « Je disparais ». Il y a des gens qui partent, qui disparaissent du jour au lendemain. J'ai déjà vu ça dans une émission. Pendant Angie, il a senti sa petite main s'agiter comme un oiseau dans ses doigts. Il a ouvert la main, elle s'est échappée. La chanson était terminée. La couronne de fleurs est tombée par terre. Armand l'a ramassée. Annette s'est mise à pleurer et à rire en même temps. La morve coulait sur ses lèvres. Elle reniflait en parlant suédois. Et jamais Armand n'avait vu quelque chose d'aussi beau que cette morve qu'elle essuyait du revers de la main. Magnus est sorti de la cuisine. Il a pris sa fille dans ses bras et l'a cajolée. Ensuite, elle est allée s'enfermer un long moment dans les toilettes. Personne ne s'en est aperçu, sauf Armand. Tout le monde a cru qu'elle était montée rejoindre son mari. Pendant qu'il mangeait la soupe à l'oignon et qu'Alain racontait des blagues qui faisaient rire tout le monde, surtout son frère, Armand est allé dans les toilettes à son tour. Annette venait juste d'en sortir. Elle avait trituré des magazines de vente par correspondance et jeté des Kleenex dans la petite poubelle Liberty. Ils étaient encore tout imprégnés de larmes. Armand les a tous mis dans sa poche pour enfermer le chagrin d'Annette. Il est resté debout devant les chiottes un long moment. Il aurait voulu rester là jusqu'à sa mort. Les 2 mètres où elle venait de passer 1 heure lui feraient un caveau inespéré. Il a baissé son pantalon et s'est assis sur la cuvette encore chaude. Il ne s'attendait pas à cette chaleur, celle qu'elle avait laissée derrière elle. Il a fermé les yeux et s'est mis à pleurer.